Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, ici à Lourdes, va commencer l'un des principaux pèlerinages annuels de ce lieu, le pèlerinage du Rosaire, emmené depuis 1908 par la famille dominicaine. Des milliers de personnes venues de toute la France vont donc se presser en cet endroit bien étrange pour nos contemporains. Un lieu où on peut rien moins que rencontrer Dieu. Si l'expression devient à la mode dans l'église, elle reste pour ceux qui la vivent un grand choc, comme un voile sur la réalité qui se déchire. Comme des cœurs brûlants, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin et le titre du livre de notre invité de ce matin, Alexia Vidot. Alexia Vidot, vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire La Vie, en charge des cahiers Les Essentiels et donc auteur d'un ouvrage paru aux éditions Artege, Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et vous êtes en duplex depuis les studios. Bref, vous êtes en duplex. ce sont les circonstances qui veulent ça. Mais en tout cas, on est avec vous, c'est bien l'essentiel. On va donc parcourir cet ouvrage, comme des cœurs brûlants, où vous parlez un petit peu de vous, mais avec beaucoup de pudeur. Vous parlez donc de votre conversion, de votre illumination, ai-je envie de dire, et puis vous nous proposez aussi l'histoire de convertis, plus ou moins célèbres, que les auditeurs connaîtront ou pas. Je vous laisserai les citer, et nous on s'arrêtera sur une femme dont on entend un petit peu parler quand on est, on va dire, du milieu, qui s'appelle Dorothy Day, une américaine, on va dire, plus qu'engagée, vous l'appelez la révolutionnaire de l'évangile. Mais si on commence par vous, donc vous êtes aujourd'hui, vous êtes journaliste. Dans ce livre, vous êtes, sauf erreur de ma part, à ce moment-là, étudiante. Vous commencez ainsi votre prologue. Vous avez ces mots, en fait, une conversion. C'est comme un drame. Alors, en ce jour où on arrive à Lourdes et où des conversions, il y en a, peut-être même que certains viennent à Lourdes en pèlerinage en espérant faire une rencontre avec Dieu. Ça peut un peu échauder. Qu'est-ce que vous entendez par ça, un drame ?
Oui, c'est vrai que je parle de la maladie d'amour et je cite cette chanson bien connue. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie, mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Donc d'Aznavour. Effectivement, pour moi, la conversion au Christ, c'est vraiment une histoire d'amour avec Dieu, avec tout ce que cela implique de relations d'amour, en fait. Et il y a le choc de la rencontre. C'est comme Dieu qui vient ouvrir notre cœur et y faire couler sa grâce. Et donc, c'est pas forcément très agréable. Et puis après, il y a toute cette longue vie de fidélité où il y a des hauts et des bas, des moments de plus ou moins grande intimité. Et disons que vraiment, la vie avec Dieu, moi, je la compare souvent avec la vie amoureuse avec un être de chair, parce que c'est vraiment une question de relation, de rencontre toujours renouvelée et toujours nouvelle.
Alors, dans votre livre, on va y venir, même si je ne vais pas trop vous forcer la main, parce que si vous avez été aussi pudique dans votre livre, c'est que vous souhaitez garder votre jardin secret. Mais donc vous dites que vous êtes, quand vous vous êtes convertie, donc vous étiez étudiante donc à Sciences Po Paris, et vous êtes partie donc en retraite. Peut-être quelle image, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de gens qui disaient avoir justement rencontré Dieu? Est-ce que cette expression vous faisait bondir, sourire ?
Alors, rencontrer Dieu, non, je ne pense pas que j'avais cette expression-là en tête. En tout cas, ma mère était catholique, pas pratiquante, mais elle avait une vraie relation à Dieu et à la Vierge Marie, mais vraiment loin de l'institution. En revanche, j'avais deux amis de lycée qui étaient des catholiques pétillantes et qui parlaient volontiers de Dieu, de leur camp scout ou je ne sais quoi. Et c'est elles, en fait, qui ont se retrouvé, quand moi j'étais donc étudiante à Sciences Po, et j'étais pas forcément en grande forme, je revenais d'une année Erasmus à Madrid où j'avais un peu brûlé mes ailes. Et elles revenaient d'un monastère dans la montagne où elles avaient fêté le nouvel an. Et elles m'ont dit: Alexia, ce serait top que tu ailles là-bas pour te reposer après tes examens. Et elles m'ont vendu la chose comme un bon plan vacances à la montagne. Et donc j'ai saisi l'occasion parce qu'à l'époque, j'avais vraiment besoin finalement de silence. J'étais absolument pas dans une quête spirituelle ni même de sens. J'avais écarté toute religion de mon horizon, mais j'avais juste besoin de faire une pause dans cette vie estudiantine parisienne un petit peu folle. Et donc j'ai saisi cette occasion Et c'est vrai que je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver.
Alors,
je ne pensais pas rencontrer Dieu, ça c'est sûr.
Pour en revenir à ma question, même si vous ne connaissiez pas de personne qui vous avait dit avoir rencontré Dieu, on sent que vous êtes une femme de lettres. Vous aviez probablement entendu parler d'un Claudel ou autre. Ça vous évoquait
quoi ? Vaguement, Claudel, je ne pense pas. Je ne m'en rappelle pas en tout cas. Par contre, j'avais Saint-Augustin que j'avais étudié à Sciences Po, mais vraiment plus comme l'écrivain de la cité de Dieu et la cité des hommes. On présentait la religion comme un obscurantisme, heureusement dépassé par les lumières. Donc honnêtement, mais peut-être que j'avais dû lire des choses sans doute, hein, mais ça ne m'avait pas marqué, ni je ne me suis pas sentie concernée, ni même intéressée. J'étais plutôt indifférente à toutes ces choses-là. Donc peut-être que j'en ai entendu parler, mais ça n'a pas eu écho en moi.
Donc vous dites que vous étiez indifférente et en même temps vous dites que pour vous la question était comme réglée. Ça peut paraître contradictoire, c'est-à-dire en fait quel regard vous portiez sur les croyants. Vous trouviez ça étrange ou...
J'étais vraiment... Enfin, mes copines, peut-être je les regardais un petit peu d'un regard moqueur, mais pas tant que ça. Enfin, j'étais pas agnostique, je me posais pas de questions en fait. J'étais vraiment dans une indifférence assez totale en fait sur ces choses-là.
Alors, on va plonger un peu dans votre livre. Donc, vous arrivez dans ce lieu et dans ce monastère. Il y a quelque chose qui est très beau et très touchant parmi les multiples choses que j'ai retenues. Alors, évidemment, on ne parlera pas de tout, parce qu'il faut le lire, ce livre. Vous êtes, semble-t-il, vous vous sentez en fait attendu ou comme chéri, alors que ces femmes ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques-unes des attentions qui ont fait que, étrangement, oui, vous vous sentiez attendu.
Avant même que j'arrive, j'ai appelé le monastère pour demander l'hospitalité. Et je me souviens très bien de la petite sœur qui m'a répondu et qui m'a posé comme question « Est-ce que vous venez pour prier ?» Et moi, j'ai dit « Non, surtout pas, je ne suis même pas baptisée. » Enfin, j'ai eu un petit peu peur quand même. Et là, la sœur m'a dit « Non, mais aucun problème, surtout, venez vite, on vous attend. » Rien que cette parole m'a marquée, je m'en rappelle aujourd'hui encore. Et quand je suis arrivée, déjà, même la beauté, la création, en fait, c'est un monastère qui est face à la chaîne du Mont-Blanc, donc vraiment un horizon absolument magnifique. Et même la création, d'une certaine manière, m'attendait. Je ne sais pas comment dire, en plus c'était immaculé de neige, avec un silence très profond, un silence qui m'a vraiment marquée. Et ensuite, le premier soir de mon séjour, une petite sœur est venue toquer à ma porte, elle est rentrée, on a commencé à parler. Enfin, surtout, elle m'a écoutée, en fait. Et dans son écoute, dans son attention, il y avait quelque chose de très beau où elle me prenait là où j'en étais, comme j'étais. Et elle m'a entourée d'une écoute bienveillante qui m'a permis, finalement, de dilater mon cœur et d'être qui j'étais vraiment et de laisser monter toutes les questions que j'avais enfouies en moi. Et puis aussi un petit détail aussi qui montrait que j'étais attendue, qui paraît tout bête, mais qui manifeste cette attention dont l'homme a besoin, c'est quand je suis rentrée dans ma chambre, la table était dressée, il y avait des petits sablés préparés, une tisane chaude. Enfin, c'est des détails, mais je crois que comme le dit Simone Veil, le malheureux n'a pas besoin d'autre chose que de personnes qui font attention à lui. Et elle parle de cette attention comme d'un miracle. Et c'est vrai que tous ces premiers jours au monastère, j'ai été entourée de cette attention totalement gratuite et désintéressée. Et de la part de sœurs qui, vraiment, on n'avait rien en commun. On n'avait pas question d'âge, d'affinité, d'origine. Elles étaient bonnes sœurs. Moi, j'avais bien dit que j'étais venue, que je venais en vacances. Enfin, la chose était claire. Et malgré tout, elles étaient dans une très belle attention.
Parmi les autres choses qu'on peut trouver au début de votre ouvrage, c'est que vous laissez entendre peut-être est-ce rétrospectivement, je vais y arriver, que vous avez ce regard, mais vous avez entre autres ce regard sur la société, vous avez entre autres cette phrase, elle est assassine cette société qui entend guérir l'homme de son inquiétude métaphysique et religieuse. Je crois même que vous citez Bernanos qui parle, oui c'est ça, de la société moderne comme d'une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Ça, c'est votre relecture aujourd'hui ?
Oui, c'est une relecture. C'est vrai que la petite sœur dont je parlais a comme fait exploser la chape de plomb que l'esprit du monde coule sur notre intériorité. Donc évidemment, sur le coup, je ne m'en rendais pas compte, mais c'est quand j'ai eu cette sensation de délivrance, d'une certaine manière, de permission d'aller interroger ce qui sommeillait en moi et qu'on m'interdisait d'interroger, que j'ai pris conscience finalement de cela et de la... et finalement de ce, voilà, cet assassinat de l'âme quand on quand on retient l'homme finalement à la surface de son être, à la surface de lui-même, et qu'on l'empêche de descendre dans sa profondeur. Et ça, c'est un drame. Je pense, j'espère qu'on en sort aujourd'hui à la faveur du confinement, où beaucoup ont fait l'expérience que de cette soif intérieure, de cette inquiétude, de cet sentiment de perte, de nostalgie. Il faut qu'on en sorte, parce que l'homme est grand, la vocation de l'homme est grande, et on ne peut pas rester au seuil de la vie et vivre collé au sol et à ses contingences. Mais évidemment, sur le coup, je ne m'en rendais pas compte. Et Dieu merci, j'ai eu cette révélation, effectivement, qu'on est appelé à grand.
Vous dites entre autres la chose suivante aussi: certaines âmes ne peuvent s'y résoudre et choisissent d'en découdre avec les tyrannies du positivisme, du matérialisme, du subjectivisme, du pragmatisme, et j'en passe, parce que vous en citez d'autres. Parmi toutes les personnes que vous citez, il y a une personne qui a passé du temps ici dans le sud-ouest, qui est donc Jacques Maritain. On sent qu'après vous l'avez largement parcouru. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme, peut-être? C'est bien connu pour beaucoup d'entre, enfin pour certains auditeurs, Maritain Blois, cette rencontre, on va dire le feu. On y reviendra peut-être. Le feu et presque la folie de Léon Blois qui a réveillé les Maritains.
Oui, alors. Le troisième jour de mon séjour au monastère, je suis allée voir l'aumônier d'alors, qui était un vieux prêtre missionnaire qui avait parcouru le monde, avec son frère de sang qui était aussi missionnaire. Ils se sont mis au service des plus pauvres. Et cet homme, le père Pierre, aimait beaucoup Maritain, il l'avait rencontré. Et donc, notre première rencontre, il m'a parlé de Jacques et de Raïssa Maritain, que je ne connaissais absolument pas. Et il m'a parlé de leur serment dans le Jardin des Plantes. Donc avec Raïssa, ils étaient des jeunes étudiants. Et ils étaient très déçus finalement par l'enseignement qu'ils recevaient à la Sorbonne, où ils le considéraient un peu comme le temple saint de leur bien-pensance, où régnait un scientisme conquérant, orgueilleux, un rationalisme étroit. Et donc ils se promènent un jour dans le Jardin des Plantes. Ils font ce serment. Alors, je n'ai pas les citations sous les yeux, mais c'est Raïssa qui le raconte dans Les Grandes Amitiés. Ils disent « Nous voulions mourir par un libre refus s'il était impossible de vivre selon la vérité. » Et donc, c'est après, ils rencontrent Léon Blois et tout un chemin de conversion qui commence, et c'est très beau. Sur le coup là, de mon premier séjour au monastère, je n'avais que ce fragment de leur vie qui, moi, m'a vraiment touchée, parce que même si j'avais jamais formulé cette alternative de la sorte, je sentais bien finalement que si on ne pouvait pas miser sa vie sur des valeurs supérieures que ce que le monde nous propose, à quoi bon finalement ? Et je pense que ces pages peuvent gêner beaucoup aujourd'hui, parce qu'elles expriment que le royaume de la vérité est accessible à l'homme, et qu'il ne faut pas tomber dans ce relativisme que Benoît XVI a beaucoup dénoncé, la dictature de relativisme. Dès qu'on tombe dans cette dictature, finalement, on s'interdit le royaume de la vérité et on vit dans une mesure plus petite que celle que Dieu nous offre, en fait.
Vous citez aussi Benoît XVI de la manière suivante, vous dites l'absolutisation de l'homme, donc c'est lui qui parle, et la conséquence la plus terrible c'est la conséquence la plus terrible, c'est pas vous, mais de la tragique réduction anthropologique actuelle. Alors, on sent que vous avez aussi consenti en intelligence. Voilà, vous dites la chose suivante: à 20 ans, j'étais le parfait enfant de mon siècle, et puis un petit peu plus loin sur la montagne, Dieu attendait ma réponse. Par mon consentement, j'ai ouvert au bien-aimé, je l'ai fait entrer dans ma vie. Alors, peut-être, est-ce que vous pouvez juste nous dire, avant qu'on fasse une première pause et puis qu'on prolonge en vous citant, hein, évidemment, et puis vous nous partagez évidemment ce que vous souhaitez, mais qu'est-ce que vous avez découvert, en fait, au tout début ?
Au tout
quel
début,
visage, je... Quel visage avait ce Dieu quand vous avez justement ouvert la porte, comme vous dites, à ce bien-aimé ?
Ben c'est vraiment le visage de la Trinité, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de cette communion d'amour dans laquelle que je sentais appelée à entrer dans la danse de cette communion d'amour. Donc c'est vraiment le Dieu amour, et c'est, je pense, le point commun de toutes les conversions qui sont chacune uniques, c'est quand on prend conscience de cet amour unique, personnel et singulier de Dieu pour soi, un Dieu personnel qui m'aime, moi, Alexia, de toute éternité.
Et ben c'est dit, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parcourir votre ouvrage Comme des cœurs brûlants, paru aux éditions Arthège.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Comme des cœurs brûlants, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce mercredi de début de pèlerinage du Rosaire ici à Lourdes, où jusqu'à la fin de semaine donc, va se dérouler ce grand pèlerinage qui attire près de 20 000 personnes chaque année, l'un des grands pèlerinages et rendez-vous annuels de ce sanctuaire. Avec nous ce matin, donc Alexia Vido, auteur donc de cet ouvrage du même nom, Comme des cœurs brûlants, paru aux éditions Arthège, pour ceux qui nous rejoindraient. Alexia Vido est, pour rappel, journaliste pour l'hebdomadaire La Vie. Dans ce récit, donc, qui est le récit du cœur brûlant qui est devenu votre cœur en rencontrant Dieu, et puis de la présentation, donc, pour rappel, d'un certain nombre de portraits de convertis. Si on continue par vous, avant de parler de cette fameuse Dorothy Day à la fin de l'émission, plusieurs fois aussi vous laissez entendre, Alexia Vido, qu'une conversion, c'est souvent à la fois fulgurant, enfin bien souvent en tout cas, la vôtre ça a été le cas, mais aussi le fruit d'une longue préparation. Et alors dans votre ouvrage, on s'y perd parce que, à vous entendre, comme vous le disiez au début de l'émission, pour vous, de prime abord, il n'y avait pas eu de préparation.
Effectivement, je pense, sur le coup, quand je racontais ma conversion, je disais, voilà, j'ai rencontré, enfin, la foi est tombée comme du ciel, ça venait un peu de nulle part, mais c'était sur l'instant, sur le moment que je pensais que ma conversion était fulgurante. Et après, je pense que c'est le cas pour tous les convertis, quand on relit notre vie d'avant, on voit finalement tous ces moments où la grâce avait déjà commencé de toucher notre nature, où Dieu avait commencé à nous travailler au corps à corps, au goutte à goutte. Et il n'y a pas un avant et après, même saint Paul qui tombe de son cheval, il n'y a pas de cheval, mais quand il tombe de son cheval sur le chemin de Damas, on pense que c'est radical, mais il ne se convertit que parce qu'avant il avait été un juif pratiquant, il avait fréquenté la Bible, enfin, c'est... ou un André Frossard par exemple qui dit se convertir en 5 minutes en rentrant dans une église et lui-même dit qu'on ne rentre pas sur le chemin d'Emmaüs par la fenêtre. Enfin, il y a tout un travail en amont de la grâce et depuis le ventre maternel en fait, de toute éternité on est travaillé par Dieu parce qu'on est créé par Dieu et pour Dieu. Et ensuite, c'est que quand on relit la chose qu'on voit ces moments-là, qu'on voit le travail de la grâce en souterrain. Et aussi, ce que je souligne dans mon livre, c'est que la conversion ne se réduit pas au choc de la rencontre, ni avant la rencontre, ni après, parce que le choc de la rencontre, c'est le début d'une aventure humaine et spirituelle décapante. C'est le point d'arrivée, enfin le point de départ et non d'arrivée d'un chemin assez décapant.
Alors venons-y, peut-être si on avance après pour vous ce mont-Tabor, vous dites « Alors je suis descendu du Tabor, les yeux encore brûlés de la gloire de Jésus. » Et après vous citez donc Paul Claudel « Toute la machine qui marchait dans un sens, il faut lui apprendre un autre sens. » C'est-à-dire oui. Que pour vous, quoi, vous êtes revenu et vous avez commencé quoi, à voir la réalité différemment. C'est votre logique, on va dire, même de pensée qui a changé.
La logique de pensée, mais aussi tout bêtement, tout en fait, tout change. C'est un monde nouveau qu'on découvre, qu'on apprend à connaître. Il y a tout le renouvellement du jugement, comme dit saint Paul, qui doit avoir lieu.
Sans vouloir être indiscret, si vous pouviez prendre des exemples pour aider les auditeurs qui sont loin de ce
oui,
type
non,
de
c'est vrai que je parle peu de moi parce que je préfère parler de Dieu, mais effectivement, de donner des exemples concrets, ça peut aider à comprendre ce que je veux dire. Mais tout bonnement, pour parler très concrètement, j'ai arrêté de faire certaines choses qui n'étaient pas moralement très bonnes. Je fumais certaines choses plus que de la cigarette et j'ai arrêté parce que je sentais que c'était pas... J'ai aussi fait un certain tri dans mes amis. Et puis aussi plus fondamentalement, j'ai changé de regard sur toutes les questions bioéthiques aussi. Moi, j'étais pour tout ce que maintenant je suis contre, pour de manière assez caricaturale de dire la chose. Mais il y a plein de choses. Et puis aussi les sacrements, la lecture de la parole... Enfin, tout changé. Enfin, j'ai pas changé de caractère, mais il y avait quelque chose qui changeait ma vie. Et puis surtout, Ce que j'ai compris, c'est qu'encore une fois, la conversion, c'est pas une fois pour toutes. On rencontre pas le Seigneur une fois et puis après, c'est bon, on passe du bon côté de la barrière. C'est vraiment un chemin. Et la conversion, c'est tous les jours, à chaque instant. Et c'est ce combat de la foi dont parle saint Paul très bien dans ses épîtres, entre le vieil homme qui peine à mourir et la créature nouvelle qui peine à naître, en fait.
À vous lire aussi, c'est, on va dire, ce monte à bord, ça a été aussi, comme on le disait au début de l'émission, vous parliez au début de l'émission donc, du drame de la conversion. C'est aussi, enfin, ce fut autant un dépouillement qu'un enrichissement. C'est-à-dire que c'était râpeux. Vous avez une citation, mais que je ne retrouve pas, qui laisse entendre que voilà, ce dépouillement est en réalité une crucifixion. Dites-vous, c'est fort de dire ça.
C'est Saint Paul, parce que j'aime beaucoup Saint Paul. Il m'accompagne depuis le début de ma conversion. Et effectivement, c'est le combat de la foi. C'est encore une fois, c'est ce vieil homme qui est appelé à être dépouillé. Et ce n'est que dans la mesure où on crucifie le vieil homme que l'homme intérieur peut se renouveler, se fortifier et devenir à terme un même être avec le Christ. Parce que voilà, le but du chrétien, c'est la sainteté, c'est d'être un même être avec le Christ. Et donc tout l'objectif de chaque instant, c'est de donner chacune des fibres de son être au Christ. Et donc, ça demande de renoncer à ses idoles, d'abattre une à une ses idoles, de choisir le bien, de renoncer au mal, et puis d'avancer, et puis de se relever à chaque chute. Et c'est vrai que c'est, moi je le dis, j'insiste beaucoup sur mon livre pour être tout à fait franche avec ce que je vis. La vie chrétienne, je trouve que c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Ça donne beaucoup de joie, une joie profonde, mais c'est très exigeant.
Alors vous dites aussi que c'est comme si vous aviez vécu une deuxième naissance, hein, comme si tout mon être n'avait pas vu le jour le 16 avril 1987, mais le 12 février 2008. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer davantage pour vous, c'est quoi en fait c'est comme si tout mon être n'avait pas vu le jour. C'était quoi? C'était juste la vie de votre âme qui n'avait pas vu le jour quelque part?
Oui, je pense que j'avais pas du tout pris conscience de ce continent intérieur que chaque être a en soi, en fait. Et que quand on vit à fleur, au seuil de sa vie, finalement, on ne vit pas à la hauteur de notre vocation. Et que ce cadeau inouï de la foi que j'ai reçu, cet appel à toujours plus avancer vers la profondeur de mon être et vraiment une nouvelle naissance, parce qu'on vit à plein, enfin on essaye en tout cas de vivre dans toutes nos dimensions et de ne pas rester que collé encore une fois au sol et à ses contingences. Et donc c'est une nouvelle naissance qui a lieu chaque jour.
Quid de votre difficulté avec votre entourage? Vous en parlez à demi-mot, alors vous n'êtes pas obligé de parler à la première personne, hein, mais il m'était insupportable même de voir mes proches passer à côté d'un tel trésor. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux peut-être qui en sont, enfin qui sont eux-mêmes convertis, ou à ceux qui aimeraient, mais qui du coup ça pourrait faire peur? C'est quoi? C'est une brûlure qu'on peut pas s'empêcher de partager?
Oui, je pense surtout au début, quand on est dans le feu de la conversion, on trépigne, voilà, à l'idée que tous suivent notre chemin, et parce qu'on a tellement trouvé, on veut partager ce trésor qui nous donne de la joie et qui, on sait qu'on est tellement aimé, on veut le dire à tout le monde, on veut que tout le monde croit qu'il est aimé de Jésus de manière inconditionnelle. Donc on trépigne, et c'est vrai que ce côté enflammé peut parfois agacer, et cet empressement n'est pas forcément ajusté. Et j'invite les auditeurs à relire les correspondances entre Paul Claudel et Jacques Rivière qui moi m'ont beaucoup aidé à mieux témoigner de ma foi avec plus de respect envers la liberté de l'autre, parce que donc Claudel est déjà converti et Jacques Rivière, lui, est étudiant à la Sorbonne et il hésite, voilà, il est attiré par la religion, mais il a plein de réticences. Et Claudel est un peu agacé par Rivière qui ne cesse de lanterner et qui ne fait pas le grand saut de la foi. Et puis à un moment donné, Claudel se rend compte qu'il s'était complètement fourvoyé et que finalement, son empressement, c'était de penser à la place de Dieu, de même lui faire le reproche qu'il ne savait pas trop s'y prendre avec Rivière. Et il a ce mot très beau, il dit à Rivière, Dieu aura son heure avec vous, que ce soit la première ou la onzième, j'ai eu le tort d'être plus pressé que lui. Donc voilà, je pense que c'est important pour moi. Enfin, pas pour moi, enfin, c'est l'ADN de l'Église, de tout chrétien, c'est la mission, c'est l'évangélisation. Jésus a été très clair dans les évangiles, donc voilà, il faut témoigner, il faut annoncer. J'étais au congrès mission à Rennes ce week-end et c'est très beau, voilà, cet élan missionnaire fait vraiment partie de l'identité du chrétien. En revanche, il faut faire attention de il faut toujours avoir à l'esprit que c'est Dieu seul qui convertit. Et que l'homme, enfin vraiment que la conversion, c'est le miracle de la rencontre entre deux libertés, celle de Dieu et celle de l'homme.
Alors vous citez aussi Bernanos qui assène justement à Claudel, semble-t-il, le mot suivant, Cocteau ou autre, « Je leur reproche de ne pas comprendre toujours grand-chose à ceux dont ils ont partagé auparavant l'erreur, ce qui est d'ailleurs parfaitement naturel, car il est rare qu'un converti ne soit pas un peu converti aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose. » Ça complète un peu ce que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez mettre en...
Oui, c'est vrai que Bernanos, dans Nos Amis les Saints, il ne se montre pas tendre avec les convertis, dont il n'était pas, et il pointe un peu tous les écueils dans lesquels on peut tomber et dans lesquels je suis tombée personnellement. Et effectivement, je crois que plus ça va, moi, plus je me rends compte que finalement, comme disait Chesterton aussi, on est tous dans la même barque, on a tous le mal de mer, et que parfois, certains chrétiens, et je le dis parce qu'encore une fois, j'ai vécu la chose, on peut se mettre un peu par au-dessus et regarder les autres de manière surplombante avec, en se disant bah, « moi j'ai quand même le Christ », une sorte d'orgueil spirituel qui est hyper dangereux à la fois pour le chrétien lui-même et pour les autres en fait. Et on a tout intérêt à se sentir solidaires les uns des autres. Et finalement sur cette terre, nous sommes tous des chercheurs. Et quand un chrétien cesse de chercher, bah, il se fourvoie. Et donc on doit être vraiment se dire que voilà, où qu'on en soit, voilà, on cherche la vérité et on est solidaires dans cette recherche, dans cette inquiétude. Et je pense que, et je le souligne dans mon bouquin, parce que ça me paraît vraiment fondamental, ne tombons pas dans l'orgueil spirituel et préférons l'inquiétude à la satisfaction, parce que cocher les cases ne suffit pas et que tout chrétien est appelé à cheminer sur ce chemin de sainteté. Alors, qui n'aura jamais de fin.
Venons-y, ça sera un peu mes deux dernières questions avant qu'on fasse une deuxième pause et qu'après qu'on parle de Dorothy Day. Vous dites à un moment « je ne veux pas être une bonne catholique », et un peu plus loin, vous citez Léon Blois qui avait, on va dire, en ligne de mire, si je puis dire, une certaine bourgeoisie catholique. Alors vous, vous ne parlez pas de bourgeoisie catholique, mais qu'est-ce que vous entendez par cette expression « je ne veux pas être une bonne catholique » ?
Ah oui, ce côté ouais, de bourgeois, enfin Blois, il a des... Bernanos aussi ont des mots très forts sur cette bourgeoisie, ce côté où on s'installe dans notre confort spirituel, on coche les cases, on respecte les prescriptions, les interdits, mais en fait, ce n'est pas ça la foi, la relation à Jésus. Et il faut être dans cette inquiétude, dans cette recherche, en fait, ne pas s'installer. Et Peggy a, par exemple, cette phrase que j'aime énormément, il y a pire même qu'une âme perverse, c'est une âme habituée. C'est une âme qui finalement, s'habitue au mystère de Dieu, au mystère de l'existence, et n'est plus, finalement, dans cette vie, dans ce chemin qui n'aura de terme qu'au ciel, en fait. Je crois que c'est saint Augustin qui dit « Dieu est si grand qu'on n'en aura jamais fini, il est toujours nouveau ». Donc il ne faut jamais cesser il ne faut pas s'habituer, s'installer et toujours être à la toute chose nouvelle, quoi.
Vous citez aussi Marie-Noël, cette poétesse, donc, pas très bien connue, hein, mais nous, on en a parlé un petit peu à cette antenne, en tout cas on a fait l'émission sur elle. Cette citation sur laquelle j'aimerais que vous reveniez, un catholique donne, il ne reçoit pas, c'est en quoi je suis mal catholique, dit Marie-Noël.
Mais oui, parce que Dieu seul connaît les frontières de son Église, en fait. Et parfois, on se dit chrétien, mais bon, voilà, pour parler de moi, quand vous voulez que je parle de moi, je vais parler de mon papa, qui dit toujours ne pas croire en Dieu, mais moi, je vois comme il vit, et il est plus chrétien que moi. Et donc, c'est toujours le côté orgueil spirituel qu'il faut vraiment fuir, parce que on reçoit de l'autre, qu'il soit chrétien ou pas, enfin, qu'il se dise chrétien ou pas, qu'il aille ou pas à la messe. On doit recevoir de l'autre, et c'est que dans la mesure où on sait que l'autre peut nous apporter quelque chose, nous faire grandir, nous faire aimer mieux, c'est que dans cette mesure-là qu'on va pouvoir échanger et aussi partager ce trésor qui nous fait vivre.
Allez, on fait une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler de, puisque après vous proposez une galerie de portraits de convertis, parler de Dorothy Day, 1897-1980, une femme américaine, la révolutionnaire de l'évangile. On vous retrouve dans quelques instants. Je rappelle le titre de votre livre que l'on parcourt ensemble, Comme des cœurs brûlants, paru aux éditions Arthège.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Comme des cœurs brûlants, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en tout cas pardon, son titre. Et nous sommes, pour ceux qui par hasard nous rejoindraient, avec Alexia Vido, auteur d'un ouvrage du même nom paru aux éditions Arthège. Alexia Vido qui est journaliste pour l'hebdomadaire La Vie et qui est ici donc à Lourdes à l'occasion de ce pèlerinage du Rosaire, en tout cas qui donnera donc une conférence. Alors chose promise, chose due, donc on va parler de l'un des portraits de convertis que vous nous proposez. Peut-être est-ce que vous pouvez nous en présenter d'autres, sans citer les sept autres que j'ai sous les yeux, et puis nous expliquer pourquoi vous en avez choisi, allez, disons deux ou trois.
En fait, juste pour rappeler le critère de mon choix, c'était, je voulais montrer la toute-puissance et l'universalité de la grâce. Donc j'ai choisi des personnes des quatre coins du monde et au parcours, au caractère, aux origines très différentes. Donc on a par exemple en France, il y a Marcel Gallois, qui était cette caricaturiste française très connue, qui est devenue bénédictine.
Geneviève Gallois, non ?
Oui, qui s'appelait Marcel Gallois et qui est devenue mère Geneviève Gallois.
D'accord, voilà. Pardon.
Il y a Takashi Nagai, le médecin japonais, ou Bruno Cornacchiola, qui voulait tuer le pape et qui a eu une apparition de la Vierge. Et je fais une petite parenthèse, à Lourdes, je vais faire trois écoles du soir et je vais brosser le portrait de Bruno Cornacchiola, Takashi Nagai et les époux Rugamba.
Alors,
Daphrose et Cyprien Rugamba.
Disons peut-être un peu plus justement de ces trois, ou rapidement.
Alors Daphrose et Cyprien Rugamba, Cyprien est un poète, un compositeur et un haut fonctionnaire du Rwanda, très connu, qui avait rejeté toute foi. Et c'est vraiment grâce à la prière de sa femme, à sa patience, qu'il rencontre Jésus. Et les deux vont fonder l'Emmanuel au Rwanda. Ils vont faire partie des premières victimes du génocide.
Donc l'Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel.
La communauté de l'Emmanuel, exactement. Takashi Nagai, c'est ce médecin japonais qui a survécu à Hiroshima, qui après une très belle conversion du scientisme athée jusqu'à vraiment une suite de Jésus radical, a été ce héros de la paix sur cette terre calcinée par la haine. Et Bruno Cornacchiola, c'est un jeune romain qui a une enfance très, très pauvre et très difficile, qui a été radicalisé par un fondamentalisme protestant pendant la guerre civile espagnole et qui revient de la guerre civile espagnole avec un seul objectif, c'est de tuer le pape. Et donc, il commence à essayer d'extirper sa famille de l'emprise de l'Église catholique. Et puis, un jour, le 12 avril 1947, il a une apparition de la Vierge Marie à Tréfontaine. Et à partir de ce jour-là, et puis à la faveur d'autres apparitions mariales, il va vraiment devenir un apôtre zélé de la Vierge Immaculée et Assomptée.
Alors, il y a un autre portrait donc, que vous proposez, qui est donc Dorothy Day. Je l'ai dit, hein, vous appelez ce chapitre donc la révolutionnaire de l'évangile 1897-1980. Tout simplement, je vous propose que vous nous racontiez l'histoire de cette femme, et vous, c'est ce que vous faites d'ailleurs dans ce chapitre, hein, vous commencez par raconter son enfance et une expérience première douloureuse et en même temps extraordinaire qu'elle fait de l'amour fraternel. Qui est comme une boussole pour toute sa vie. Est-ce que vous pouvez raconter ce drame vécu à l'âge de 8 ans ?
C'est en 1906, donc il y a un séisme qui secoue San Francisco. Et Dorothy, qui va assister à ça, qui va en être touchée même personnellement, voit un élan extraordinaire de solidarité qui s'organise pour venir en aide aux réfugiés. Et elle goûte déjà, à 8 ans, à la joie de faire le bien et à servir, à partager avec les sans-abri. Et cette expérience de l'amour fraternel à l'état brut, elle va essayer de retrouver la saveur tout au long de sa vie. Et donc à 15 ans, sa famille arrive à Chicago. Et là, elle va commencer, pour tromper son ennui, à lire des auteurs comme Hugo, Poe, London ou Dickens, d'autres auteurs aussi, des anarchistes russes. Et son cœur va être transpercé par la question sociale, par l'abjection sociale. Elle va commencer à sillonner les rues de Chicago, les rues les plus miséreuses. Et elle a cette parole très forte. « J'avais reçu un appel, une vocation, une direction à donner à ma vie, à savoir partager le sort des pauvres et des ouvriers. »
Alors pourquoi, cette femme semble-t-il élevée quand même, en tout cas pas complètement étrangère au christianisme, décide de cesser toute pratique?
Oui, c'est vrai que sa famille est vaguement épiscopalienne, mais pas du tout pratiquante. Mais en fait, cette abjection sociale, Dorothy va s'élever contre l'idéal de la médiocrité bourgeoise qui règne dans la société américaine et qui est incarnée, selon elle, beaucoup par les chrétiens hypocrites, en fait, dont le bonheur égoïste lui semble une insulte à la misère du monde. Et donc, elle qui a quand même... Qui est touchée par Dieu, qui aime la Bible, qui a découvert les psaumes, qui a reçu le baptême à l'âge de 12 ans dans l'église épiscopalienne, elle va décider résolument et de toute la force de son caractère qui est bien trempé, elle va décider d'étouffer finalement cette soif et cette spiritualité au nom finalement de cette classe laborieuse que Dieu aurait oubliée et que surtout les chrétiens hypocrites ne s'occupent absolument pas. Et elle demande où étaient les saints qui allaient essayer de changer l'ordre social, les saints qui, au lieu de s'employer à secourir les esclaves, allaient en finir avec cet esclavage lui-même. Et ces saints-là, à cette époque, Dorothy est sûre qu'ils ne se trouvent pas dans l'Église. Et pour moi, comme elle le dit, le Christ ne parcourait plus les rues de ce monde. Et donc, elle se tourne vers d'autres dieux, à savoir les dieux de
Alors, venons-y, vous, dans la citation que vous donnez, si on la poursuit, il était mort, donc, ce Christ, depuis 2000 ans, et de nouveaux prophètes s'étaient levés à sa place. Et donc, cette femme s'engage dans la révolution marxiste.
Oui, c'est ça. Marx devient son dieu, et c'est des textes religieux pour elle. Et donc, elle va commencer à communier à toutes les causes révolutionnaires. Et à 19 ans, elle va à New York et elle devient journaliste pour mettre sa plume au service de ces causes révolutionaires. Et elle y va vraiment, elle n'y va pas de main morte. Hein. Elle s'élève, c'est une révoltée en fait, Dorothy Day. L'injustice la révolte. Et donc, elle y va à fond. Quoi. Elle participe à toutes les manifestations, y compris féministes. Et ce qui est très beau, c'est que je trouve que même quand elle est révoltée et qu'elle a décidé vraiment de taire le nom de Dieu en elle, quand elle se retrouve en prison après avoir manifesté avec une manifestation féministe pour le droit de vote des femmes, elle se retrouve en prison et le seul livre qui pouvait être prêté aux détenus, c'était la Bible. Donc elle commence, elle lit la Bible, elle retrouve les psaumes qu'elle aimait dans son enfance et elle sent la douleur que le psalmiste ressentait et qui est la douleur finalement des pauvres. Et elle sent bien que la Bible est plus qu'un livre et malgré tout, fidèle à son credo marxiste, pleine d'orgueil, elle ne veut pas aller vers Dieu dans la défaite et donc elle tait à nouveau quand elle sort, quand elle est libérée de la prison, elle tait à nouveau cet élan vers Dieu et elle retourne dans ses combats de militante de la gauche radicale.
Alors, sauf faire de ma part pourtant, sauf si j'ai parcouru trop vite ce chapitre, c'est à nouveau à l'occasion d'un séjour en prison non, qu'elle se tourne vers Dieu cette fois.
Ben oui, là, elle se tourne vers Dieu, mais quand elle en sort, elle retourne dans son, elle renoue avec son credo marxiste. Mais après, c'est ça qui est très beau chez Dorothy Day, c'est que son chemin de conversion est très lent. Elle ouvre la porte, elle la referme, elle la réouvre. Et Dorothy connaît toutes les souffrances de notre époque. Elle connaît des amours, des relations toxiques. Elle connaît l'avortement parce que ce Lionel Moïse elle est tombée amoureuse de cet homme quand elle était infirmière bénévole à l'hôpital pendant la guerre. Elle l'oblige finalement à avorter. Après, elle va se marier, elle va divorcer. Elle partage toutes ces souffrances de son époque, mais Dieu est toujours là et finit finalement par la rattraper jusqu'à ce qu'elle demande le baptême quand elle est enceinte de sa fille Tamar, qui naît en 1926. Elle veut tellement pour elle le meilleur qu'elle se dit « faut absolument que je la fasse baptiser pour qu'elle ne vive pas tous les tourments moraux que moi j'ai vécu ». Et quand elle fait baptiser Tamar, elle demande à Dieu « mais donne-moi le don de la foi ». Et donc elle reçoit le baptême ensuite. Mais ce qui est très beau aussi, que je trouve formidable avec Dorothy Day, c'est que la vie ne devient pas pour elle, pour autant, un long fleuve tranquille. Elle lutte finalement elle a du mal au début à réconcilier son activisme politique et sa foi nouvelle dans le Christ et son baptême.
Alors, ce qui va permettre quelque part de réunir tout ça, c'est donc la rencontre d'un certain Pierre Morin. Et Dorothy Day donc va fonder avec lui The Catholic Workers, donc avec un, 3C, ces Catholic Workers, qui existent toujours aux États-Unis, qui sont même assez développés. Que sont ces Catholic Workers et pourquoi c'est la synthèse, on va dire, qui lui permet de vivre sa vie chrétienne avec
ses... Oui, parce que jusqu'à cette rencontre vraiment providentielle avec Pierre Morin, Dorothy Day partage le point de vue du pape Pie XII qui disait « Les ouvriers du monde entier sont perdus pour l'Église ». Et ne savait pas que d'autres catholiques comme elle voulaient œuvrer pour la justice sociale. Elle ne savait pas que le catholisme lui-même défendait l'option préférentielle pour les pauvres. Autrement dit, elle ne connaissait absolument pas la doctrine sociale de l'Église que Pierre Morin lui a fait découvrir. Et il lui a expliqué qu'en fait, il était urgent aujourd'hui d'adapter cette doctrine sociale de l'Église au contexte social américain. Et donc Pierre Morin lui a dit, lui a proposé notamment de lancer un journal, le Catholic Worker, qui, pour attirer l'attention de tous, je le cite, sur le fait que l'Église catholique a un programme social. Donc il y a ce journal qui va être fondé, mais le Catholic Worker, c'est plus qu'un journal, c'est vraiment un mouvement avec des maisons d'hospitalité notamment, des fermes collectives, ou un mouvement qui rassemble finalement des ouvriers au chômage, des immigrés, des familles en difficulté, des marginaux, et toutes ces personnes se réunissent en communauté de vie avec le désir de vivre l'évangile dans toute sa force révolutionnaire et sa radicalité.
Avec donc là... Pardon, je vous coupe peut-être, mais avec la règle des 3C, vous pouvez préciser ce que c'est que cette règle des 3C ?
Bah c'est vraiment, c'est finalement une sorte d'écologie intégrale où il y a à la fois la culture...
Donc je recite culte pour l'importance de la vie liturgique, culture, voilà. Importance de la formation doctrinale et une autre culture, cette fois avec un grand C, renvoyant au retour à la terre.
Oui. Et c'est vrai que c'était très novateur à l'époque, parce que ce qui permet de voir aussi que Dorothy Day avait aussi à participer à l'éveil d'une conscience écologique dont on ne parlait pas encore à cette époque-là. C'est vraiment une vision intégrale de la vie qui permet à Dorothy de pouvoir vraiment réconcilier à la fois son souci de l'ouvrier, du pauvre, de tous les laissés pour compte, et en même temps sa foi en l'évangile. Et ce qui est important de souligner, c'est que parfois Dorothy Day, on peut se l'accaparer et en faire, comme beaucoup ont pu le faire, une catholique de limite communiste ou une catholique de gauche, voire communiste progressiste. Et en fait, elle disait toujours « Je déteste être utilisée comme un gourdin pour frapper sur la tête de l'Église et la hiérarchie. » Elle dit « Je suis une catholique fidèle. » D'où l'importance de la liturgie, de cette vie en communauté et cette vie d'obéissance à l'Église.
Alors cette femme donc a fini par être... canonisée, hein, c'est ça, sauf erreur de ma part.
Ah non, béatifié.
Pardon. Béatifiée, excusez-moi.
En cours de béatification même.
Oui, et le pape François, en tout cas, lui a rendu hommage lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis. Pour finir, peut-être en finissant sur une citation d'elle, « L'objectif du communisme est de rendre les pauvres plus riches. L'objectif du christianisme est de rendre les riches pauvres et les pauvres saints. » Est-ce que vous pouvez expliciter cette citation choc?
Mais c'est vrai que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la vie chrétienne, c'est un chemin vers la sainteté. Et c'est un chemin qui implique un dépouillement. Et que notre but, c'est vraiment de devenir des saints et de ne pas être ces bourgeois bien installés, bien assis confortablement dans leur certitude. Et que qu'on est appelé à vivre cette pauvreté comme le Christ s'est fait pauvre. Et c'est ça que Dorothy Day a si bien vécu et qui elle nous indique le chemin. Après, chacun a le sien, parce que nous avons tous notre chemin de liberté à parcourir, et nous avons tous aussi notre vocation propre. Nous ne sommes pas tous appelés, comme Dorothy Day, à vivre forcément pauvre avec les pauvres, dans des maisons d'hospitalité, en partageant vraiment tout. Mais tous, nous devons nous désinstaller en permanence. Et en cela, Dorothy Day aimait beaucoup lire la parole, et c'est vrai que la parole de Dieu, c'est un manuel de désinstallation assez radical, en fait.
Eh ben merci beaucoup Alexia Vidot. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, « Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis » paru aux éditions Artege. Et est-ce que vous pouvez me servir de pense-bête pour les trois rendez-vous que vous donnez donc à l'occasion de ce pèlerinage du Rosaire?
Parce que j'ai une grande conférence à l'église Sainte-Bernadette à 15h15. Je parlerai de la conversion en elle-même, un petit peu la genèse de mon livre. Et puis ensuite, trois écoles du soir, donc à 18h. La première sur Bruno Cornacchiola, la deuxième sur Takashi Nagai et enfin sur les époux Rugamba.
Eh ben merci de m'avoir filé ce coup de main entre journalistes, on est solidaires.
Volontiers.
Un grand merci à vous.
Merci beaucoup.
À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.